Aussi, ce qui est important pour nous, c'est d'entendre encore la voix de Dieu qui veut nous emmener beaucoup plus loin, eh bien dans le domaine de la sanctification, puisque encore aujourd'hui, nous allons nous attarder sur ce thème. La dernière fois, nous avions vu ensemble que la sanctification, c'est quoi ? C'est l'action qui consiste à se mettre à part pour Dieu. Parallèlement, on avait vu une autre définition de ce qu'est la sanctification. La sanctification, c'est ni plus ni moins la séparation avec toute forme de souillure. Et pour terminer notre propos, la dernière fois, nous avions ensemble vu trois moyens que Dieu met à notre disposition pour avancer, pour marcher de plus en plus au niveau de la sanctification. J'avais nommé ces trois moyens les trois P. Pourquoi ? Parce que le premier moyen, c'est la prière. Le deuxième moyen, c'est la parole. Et puis le troisième moyen, c'est le paraclet. Et qu'est-ce que le paraclet, si ce n'est la traduction grecque du mot consolateur? Il est fait bien sûr mention du Saint-Esprit. Et sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas aller bien loin au niveau de la sanctification. Vous êtes d'accord avec moi? Et je crois qu'aujourd'hui, il serait bon qu'on puisse continuer donc sur ce thème de la sanctification et peut-être regarder ensemble pourquoi se sanctifier. Eh oui, au fait, Dieu nous demande de nous sanctifier, mais pourquoi ? Pourquoi on a besoin de marcher les uns les autres dans le chemin de la ou sur le chemin de la sanctification ? J'ai pour vous relevé juste quatre bonnes raisons de marcher sur le chemin de la sanctification. Quatre raisons de se sanctifier. Est-ce que vous voulez les connaître ? Amen. On va y aller tranquillement. Vous et moi-même, nous sommes invités à pouvoir marcher sur le chemin de la sanctification pour une première raison. Dieu nous fera bon accueil et aussi sera un père pour chacun d'entre nous. Et je m'appuie sur ce qu'on avait déjà lu la dernière fois dans 2 Corinthiens chapitre 6, les versets 14 à 18, on va le lire ensemble. 2 Corinthiens chapitre 6, du verset 14 jusqu'au verset 18, et nous lisons ensemble. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et alors je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Ainsi, Dieu là nous fait la promesse qu'il nous fera bon accueil et qu'il sera un véritable père pour nous si, et seulement si, nous acceptons de nous séparer de toute souillure de ce monde. Et cela peut se comprendre, d'ailleurs on l'a changé, le Dieu qu'on sert, bien sûr, qui est devenu notre Père Céleste, c'est aussi un Dieu qui est saint, intrinsèquement saint. Son essence même, c'est, oui, certes l'amour, mais c'est aussi la sainteté. Et nous comprenons encore ce matin pourquoi il nous demande, et même on l'a entendu au travers des dons spirituels, que nous avons besoin les uns et les autres de comprendre le désir, qui est le désir le plus profond de son cœur, c'est que nous puissions marcher de plus en plus, de mieux en mieux, sur le chemin de la sainteté. D'ailleurs, il y a ce passage dans l'épître aux Thessaloniciens, premier épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4, les versets 3 à 8, regardez ce que l'apôtre Paul va dire de la part de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est quoi ? Aidez-moi. C'est votre sanctification. Souvent, les gens disent, mais qu'est-ce que Dieu veut ? Qu'est-ce qu'il attend de moi ? On a, entre autres, ici, dans ce verset 3, une première réponse. Ce que Dieu veut, mon frère, ma sœur, ce que Dieu attend de l'Église d'Istres, c'est votre sanctification. C'est que nous soyons saints. C'est que nous marchions de sainteté en sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ce que font les gens du dehors, c'est une chose, mais nous, nous avons besoin d'avoir une autre attitude. Et lors d'entretiens, je suis amené à bien dire aux gens à bien la vérité et de pouvoir se séparer de toute forme d'impureté, d'impudicité, parce que quelquefois, eh bien, c'est le cas. Et on peut peut-être bien être dans l'amalgame ou même dans la confusion, lever les mains, louer le Seigneur, et puis à côté avoir cette vie bien de débauche, excusez-moi l'expression, mais c'est la réalité. Et on a besoin d'avoir les yeux éclairés parce que le Seigneur est à la porte. Et c'est lui qui fera la différence. Il nous a dit aussi au verset 6, c'est que personne n'use envers son frère ou sa sœur de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais nous a appelés à quoi ? À la sanctification. Et il est précisé au verset 8, « Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. » Et que Dieu nous garde ce matin de rejeter Dieu. Personnellement, je ne veux pas rejeter les préceptes de Dieu, et encore moins, je ne veux pas que Dieu me rejette. Parce qu'à la longue, à rejeter tout ce que Dieu nous demande, le Seigneur, c'est nous-mêmes qui nous éloignons de Dieu. Et finalement, nous nous détournons de ce Dieu d'amour qui veut notre bien. Au contraire, nous désirons plus que jamais que le Seigneur nous fasse bon accueil, qu'il nous reconnaisse comme ses fils. On puisse dire, tel père, tel fils. Il faut qu'on ressemble au Seigneur. C'est un Dieu de vérité, donc il faut que je parle avec vérité. C'est un Dieu de sainteté, donc il faut que je marche dans la sainteté. Est-ce que c'est logique ce que je dis ? Est-ce qu'un enfant, si je l'appelle dans le club des enfants à côté, est-ce que s'il vient ici, est-ce qu'il va comprendre ce que je suis en train de dire ? C'est logique. C'est logique. Jésus, durant sa vie terrestre, n'a eu de cesse de marcher sur la voie sainte. Et à cause de cela, Dieu le Père lui a fait bon accueil. Par exemple, lorsque il a pris son baptême, quand il est arrivé au devant de son cousin Jean-Baptiste, une voix se fit entendre du haut du ciel. « Celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et à ce moment-là, le Saint-Esprit venu sous la forme corporelle d'une colombe. Ça devait être extraordinaire. Et tous avaient compris qu'il était fait mention du Seigneur Jésus, le Messie, loin. Et même un peu plus tard, quand c'est accompagné de ses trois disciples, Jésus encore monte sur cette fameuse montagne et ses trois disciples voient le Seigneur Jésus comme ils l'ont jamais vu auparavant. Et à nouveau cette voix, comme faisant bon accueil à Jésus le Fils de Dieu, « Celui-ci est mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Alors nous aussi permettons à Dieu qu'il nous reconnaisse comme étant ses véritables enfants, en marchant tout simplement, jour après jour, avec une grande joie, dans ce qui est saint, dans ce qui est conforme à la parole de Dieu. Vous savez, lorsqu'on s'aligne à ce que Dieu nous demande au travers de sa parole, nous sommes en train de marcher sur le chemin de la sainteté. Voilà donc une première raison qui ne peut que nous encourager à pouvoir marcher de plus en plus sur le chemin de la sanctification. Une deuxième raison, en nous sanctifiant, Dieu fera en sorte que notre bouche soit comme la sienne. Il me permet d'aller très rapidement dans Jérémie chapitre 15, du verset 18 au verset 19. Lisez avec moi ce qu'a été l'expérience de ce prophète, le prophète Jérémie. Il est là, et à un moment donné, il connaît quelques difficultés de compréhension. Et il est là avec ses pourquoi. Pourquoi qu'on a nous-mêmes exprimé en temps et en heure dans notre parcours jusqu'à aujourd'hui. Et ce prophète dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Mais pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Et il se questionne. Parlant de Dieu, il va dire, serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Et Dieu, dans sa bonté, dans son amour, répond à son serviteur et lui dit, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Ainsi Dieu est en train de répondre à notre ami, le prophète Jérémie. Et il lui répond personnellement à cet homme qui est en train de traverser, on l'a lu au verset 18, il traverse des moments difficiles. Jérémie est comme perdu dans des plaintes continuelles. Il est là dans des questionnements. Pourquoi il m'arrive ça, Seigneur? Pourquoi ma souffrance est-elle là? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ces questionnements sont comme mêlés, sont comme entachés par même des pointes de doute. Serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Oh Jérémie, quel genre de questions tu poses à Dieu? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? S'il y a un rocher qui est sûr, c'est Dieu. Et Dieu, dans sa miséricorde, vient à lui et lui donne cette merveilleuse réponse, une double réponse. Il dit d'abord à Jérémie, si tu te rattaches à moi. Non pas que Jérémie était détaché de Dieu, non pas que Jérémie avait abandonné Dieu, mais comprenez ce qui est sous-entendu par cette réponse de la part de Dieu. Si, eh bien, tout à nouveau, tu places pleinement ta confiance en moi, alors tu verras, je te répondrai, même face à toutes ces questions que tu te poses. Mais ce qui va nous intéresser, c'est ce deuxième point, cette deuxième réponse que Dieu lui-même va donner à son serviteur. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, alors tu seras comme ma bouche. Et ça me plaît. Et on retrouve encore notre définition, la sanctification, la séparation. Avec toute forme de souillure. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, et en l'occurrence pour notre ami Jérémie, eh bien il avait besoin, eh bien de se séparer de toutes ces mauvaises paroles, ces paroles négatives qui étaient donc empreintes de doute et qu'il faisait malheureusement sortir de sa bouche. Et nous aussi, nous avons besoin de séparer de nos vies tout ce qui peut être vil, tout ce qui peut être, eh bien, des choses qui ne peuvent qu'attrister le Saint-Esprit qui est autour de nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est le psalmiste qui a dit, « Oh Dieu, mets une garde à ma bouche. » Et je demande au Seigneur qu'il triple cette garde sur ma propre bouche. On a besoin de réaliser que nous devrons rendre compte pour toute parole qui sortira de notre bouche. Alors mon frère, ma sœur, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil ce matin, tu seras comme la bouche de Dieu. C'est extraordinaire ça, être comme la bouche de Dieu. Est-ce que c'est pas un beau programme ça? Vous ouvrez la bouche et c'est pas vous qui parlez, c'est Dieu lui-même qui parle par l'Esprit de Dieu. Ça peut se faire, c'est réalisable. On a besoin peut-être de mourir à nous-mêmes et que nous puissions diminuer et laisser le Seigneur eh bien croître au travers de nos vies. Être comme la bouche de Dieu, c'est permettre à Dieu seul de parler par notre bouche. Être comme la bouche de Dieu, c'est ne pas permettre à notre langue de prononcer de mauvaises paroles. Et c'est là où on n'est pas toujours au bon rendez-vous. La Bible dit qu'un homme parfait, c'est quelqu'un qui sait tenir sa langue en bride. Et on a tous besoin de faire des progrès à ce niveau. Éphésiens chapitre 4, verset 29 nous dit, par exemple, ne le cherchez pas, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Et si cette année 2019, nous pouvions ensemble consacrer notre langue à toujours bénir, eh bien, le prochain, quel qu'il soit? Dieu nous demande même de bénir notre ennemi, alors à plus forte raison, eh bien, nos frères et nos sœurs. Être comme la bouche de Dieu, c'est vivre le miraculeux. Et je pèse mes mots. En proclamant, par la foi, les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Les paroles qui sortaient de la bouche de Dieu étaient des paroles créatrices. Au commencement, Dieu créa le ciel, la terre. Mais savez-vous que nos paroles sont aussi créatrices? Et ont un certain pouvoir, puisque la Bible dit dans le livre des Proverbes que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si, quand cette langue est sanctifiée, eh bien, par la foi, elle est capable de créer, eh bien, ce qui n'était pas encore visible. Rien n'est impossible à Dieu. On est capable de vivre le miraculeux et être littéralement ici-bas la bouche de Dieu. Et quand on va prier pour les gens, eh bien, le miracle s'opère. Être comme la bouche de Dieu, c'est parler avec autorité et puissance, comme Jésus le faisait. C'est parler avec douceur, avec tact, comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, telle une parole dite à propos. Quand j'ai lu ce passage, j'ai dit, c'est extraordinaire ça. Et on a besoin de vivre aussi ces choses, cette sagesse, que tout soit assaisonné de sel, imprégné de la sagesse de Dieu, de ce qui peut sortir de notre bouche. Être comme la bouche de Dieu consiste à toujours choisir de glorifier Dieu en toutes circonstances. Dans les bons comme dans les mauvais jours. Et pas forcément tourner notre veste. Ah ben, Seigneur, où tu es? Je te comprends pas. Croyez-moi, le problème, il n'est jamais du côté de Dieu. Et il nous a prouvé son amour qui est infaillible. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, à combien plus forte raison va-t-il nous donner tout ce dont on a besoin ? Alors, on est tous d'accord, voilà une deuxième raison. Lorsque je me sanctifie, je permets à Dieu de parler par ma bouche au travers de ce qu'on vient de lire. Dieu laisse cette promesse pour chacun d'entre nous. Si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, alors, je te le dis, tu seras comme ma bouche. Mais j'ai trouvé aussi pour vous une troisième raison. En nous sanctifiant, Dieu pourra pleinement nous utiliser à son service. Et là, j'aurais aimé entendre un amen. Mais Joël, t'as pas assez parlé fort, donc d'accord, je vais la refaire. En nous sanctifiant, Dieu pourra pleinement nous utiliser à son service. Amen. Ah. Le manque de sainteté dans nos vies empêche Dieu de nous utiliser. Empêche Dieu de nous utiliser comme il le voudrait. Et je voudrais encore replacer devant vos yeux ce passage que vous connaissez tous de Timothée, chapitre 2, les versets 20 et 21, on va le lire ensemble. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont d'un usage vil. Mais si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, alors il sera un vase d'honneur, il sera sanctifié, il sera utile à son maître, et propre à toute bonne œuvre. Si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, quelles choses ? Il faudrait relire, bien sûr, tout le contexte du chapitre 2. Il est fait mention là de fausses doctrines qui circulaient dans les différentes églises donc avoisinantes. Et bien sûr, l'apôtre Paul mettait en garde le jeune serviteur de Dieu, Timothée. Mais on a compris que les choses, c'est ni plus ni moins, tout ce qui peut être mauvais, tout ce qui peut être forme de souillure. D'une manière générale, Dieu emploie à son service des personnes qui s'abstiennent du mal. Et lorsqu'on se sanctifie, on devient pour Dieu un vase d'honneur. Un vase qui est mis à part, sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre que Dieu a préparée d'avance pour nous. Vous savez qu'il a des œuvres pour nous. Et il a énuméré pour chacune de nos vies des œuvres pour chacun d'entre nous ici présents. Je parle des enfants de Dieu. Et Dieu attend que nous puissions les réaliser. Et nous allons vraiment réaliser, entrer dans cette mission si, et seulement si, nous nous mettons à part. Nous nous sanctifions, nous nous séparons pour être consacrés à Dieu. Si, nous séparons de nos vies tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu afin que nous soyons quelque chose de pur entre les mains de Dieu. C'est indéniable, Moïse, pour parler de lui, avait une mission qui le dépassait. Essayez de vous imaginer cet homme qui avait une première fois échoué en tuant cet Égyptien, et il est là pendant 40 ans, à s'occuper des brebis de son beau-père. Et puis, à un moment donné, Dieu attire son attention par un buisson qui est bien étrange, qui brûle, mais qui ne se consume pas. C'était le moyen pour Dieu d'attirer, cet homme, et puis lui partager finalement la mission, le service auquel il était appelé. Je vous assure qu'à ce moment-là, Moïse était à des lieux de soupçonner que Dieu avait un grand projet pour lui. Et croyez-moi, Dieu a des grands projets pour chacun d'entre nous. Je vous le dis, j'en suis convaincu, la Bible ne le précise pas, mais c'est forcément sous-entendu, on voit d'ailleurs tous les prétextes qu'il a avancés. Lui, il n'était pas intéressé. Dieu voulait faire de lui un grand libérateur pour libérer des millions, tout un peuple entier qui était à l'époque sous la mainmise d'un monarque tel que Pharaon. L'histoire raconte que cet homme gouvernait presque le monde. Moi, Seigneur, tu veux m'utiliser pour cela ? Je vous assure, la mission que Dieu a pour nous est grandiose et dépasse même nos entendements. Mais voilà, quand il arrive pour essayer de comprendre le phénomène, la vision qui est devant lui, Dieu lui dit, attends, n'approche pas, On va le lire même. Exode, c'est mieux de le lire. Exode chapitre 3, versets 4 à 5. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Non pas qu'il tournait le dos, ça c'est le français qui nous trompe là. Il essaye de regarder d'une manière ou d'une autre, mais qu'est-ce qui se passe devant mes yeux ? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Dieu veut sa présence. Dieu veut attirer son enfant. Et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Et Dieu dit, n'approche pas d'ici. Moïse dit, je comprends pas, tu m'appelles et en même temps tu me dis de ne pas m'approcher. N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Partout où Dieu est, c'est la sainteté. Parce que la sainteté convient à la maison de Dieu. Et quand je réalise que nous sommes devenus le temple du Dieu vivant et vrai, Dieu exige cette sainteté au-dedans de nous. Dieu exige cette sainteté, bien par tous les pores, bien de notre corps. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Je veux, oui, t'utiliser. Oui, je veux, bien que tu sois à mon service. Parce qu'il y a un service pour chacun d'entre nous. Mais il faut que tu saches d'abord que tu as besoin de te sanctifier. Je veux utiliser que des vases d'honneur, des vases qui sont sanctifiés. Moïse, ôte tes souliers. Et c'est étonnant, parce que le successeur de Moïse, lui aussi, a reçu ce même ordre de la part de Dieu. Josué va aussi entendre de la bouche de Dieu, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et les souliers de Moïse et Josué nous parlent bien sûr des souillures qui s'attachent à notre marche chrétienne. Qui peut lever la main ce matin et dire qu'il est pur, qu'il est juste, qu'il est parfait? Je regarde, je balaye l'auditoire, et tout comme vous, je ne lèverai pas la main. Parce que forcément, si on ne pêche pas en pensée, on le pêche en parole ou en action, on a constamment besoin du sang précieux de Jésus qui est toujours à notre disposition pour nous purifier, pour nous sanctifier. Seigneur, ce matin me voici devant toi et je voudrais spirituellement ôter les souliers de mon cœur et être utile entre tes mains. Il y a un enseignement pour nous. Si tu veux que Dieu se serve pleinement de toi, il faut d'abord que tu considères, que tu réalises ce matin, que Dieu, qui est devenu ton Père Céleste, c'est un Dieu saint. Comme on l'a chanté ce matin. Et parce qu'il est saint, tu dois chaque jour chercher à te séparer de toute forme de souillure qui pourrait s'attacher à ta personne. C'est la condition indiscutable, j'ai envie de dire une condition sine qua non, pour entrer non seulement dans la présence de Dieu, mais à plus forte raison, pour être utilisé par lui. Troisième raison. Mais je vous avais promis quatre raisons et je voudrais terminer par la quatrième. Vous avez compris que ces quatre raisons ne sont pas la liste exhaustive. On peut trouver d'autres raisons. Mais j'ai cru bon partager pour vous ce matin quatre raisons. Et la dernière, en nous sanctifiant, Dieu se manifestera glorieusement parmi nous. Hébreux chapitre 12 et le verset 14, là aussi un passage qu'on connaît que trop bien. Recherchez la paix avec tous, mais recherchez aussi la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien sûr, ce passage fait allusion et souvent on l'utilise pour le retour du Seigneur, mais on peut l'appliquer aussi dans notre vie présente. Mon frère, ma sœur, tu veux voir le Seigneur dans ta vie? Tu veux voir le Seigneur dans ta famille? Tu veux voir le Seigneur au quotidien avec toi? Alors tu as besoin de rechercher non seulement la paix avec tous, mais aussi la sanctification. Et le verbe ici rechercher se traduit en grec par le verbe diako. Dioko peut être plus exact. Et dioko veut dire courir après. Mais ça veut dire également chercher de tout son cœur. Persévérer dans une quête. Ainsi, lorsqu'un homme, lorsqu'une femme, j'ai envie de dire, lorsqu'un frère, une sœur, en Christ, court après la sanctification, lorsqu'il la cherche de tout son cœur et persévère dans cette quête, alors à coup sûr, Dieu se révélera à lui. Vous savez, Jésus, il a dit une parole, ne la cherchez pas, c'est dans Matthieu chapitre 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Et là, ça nous concerne bien sûr dans ce qui est encore à venir, le retour du Seigneur. Il y a personne qui restera dans sa souillure et qui pourra, au temps où Jésus sera sur les nuées, pourra décoller. C'est impossible. De même, pour voir Jésus dans notre quotidien, on a besoin d'avoir un cœur pur, on a besoin de marcher sur le chemin de la sanctification. Alors, je nous repose cette question. Veux-tu voir Dieu en 2019? Peut-être comme tu ne l'as jamais vu auparavant, alors il faut que tu recherches de tout ton cœur le chemin de la sanctification, que tu t'y engages et d'une manière pratique, que tu laisses le Saint-Esprit t'aider à sanctifier ta vie. C'est le temps de mettre de l'ordre. Il m'arrive à des moments, je suis, oh, elle n'est pas là, tant mieux, derrière ma première fille. Elle est assez grande pour que je lui explique certaines choses. Vous savez, ce que Dieu nous explique maintenant, c'est pas forcément ce que Dieu va expliquer au bébé, au nourrisson. Il y a des étapes dans la vie. Et plus on va grandir avec le Seigneur, plus il va exiger certaines choses. Quelquefois, je reviens derrière Kaliana, mais vous n'allez pas lui dire. Hein. Je lui dis, range ta chambre. Mets les choses en ordre. Vous savez que le Dieu qu'on sert, c'est un Dieu d'ordre. Hein. Moi, je suis toujours émerveillé, étonné. Quand le Seigneur même, il est ressuscité, les linges étaient pliés. Hein. Partout où le diable va, c'est le désordre. Et le désordre correspond à ce chaos. Au commencement, la terre était informe et vide. Et Dieu a eu besoin d'amener d'abord la lumière, et puis après, refaçonner tout ça. Et on a besoin de mettre de l'ordre dans nos vies, dans nos affaires, dans nos papiers, dans notre vie de chaque jour. Et pas continuer à faire la politique de l'autrui et dire, bon ça, voilà, et puis c'est... Mon frère, ma soeur, si tu peux encore réparer quelque chose, si tu peux mettre de l'ordre dans ta vie, fais-le. Il y a des choses, c'est vrai, on ne peut pas peut-être revenir en arrière. Mais tout ce qu'on peut faire, il faudra qu'on le fasse. Quelquefois on oublie, ou on veut essayer d'oublier les choses, mais ça revient. D'ailleurs, votre conscience, elle est là. Et on a besoin de réparer ce qui a besoin d'être réparé. Veux-tu voir Dieu en 2019? Alors il faut que tu marches sur le chemin de la sanctification. Un verset que j'ai cité, il me semble, l'année dernière, que je veux à nouveau replacer devant vos yeux, qui m'a touché le jour où j'ai lu ce passage, c'est dans Josué. Josué chapitre 3 et verset 5. Regardez ça. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Ça vous parle pas, ça? Est-ce que c'est pas ce que Dieu est capable de nous dire ce matin? Au peuple d'Istre, aux chrétiens de l'église d'Istre, à l'impasse du Rouquet, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Mais pourquoi demain? Parce que tu as déjà besoin aujourd'hui de comprendre le message que Dieu est en train de te dire. Et on comprend, eh bien, que Josué, quand il a pris cette parole, bien sûr, il l'a communiqué au peuple, et on le voit. Vous aurez le temps de le lire au chapitre 3. Dieu s'est manifesté effectivement le lendemain, puisque Josué est entré avec tout le peuple, et ils ont vu, de leurs yeux vu, eh bien, le Jourdain tout à nouveau s'ouvrir devant eux. Et finalement, ils ont traversé le Jourdain à pied sec, et ils sont entrés littéralement dans la promesse de Dieu. La terre promise, Canaan. Et je crois, on peut faire un parallèle. Le prodige, c'est que nous puissions, dans cette année 2019, aussi entrer dans les promesses que Dieu nous a laissées à chacun d'entre nous. Peut-être Dieu t'a laissé des promesses et tu ne les vois pas encore se réaliser. Tu as besoin d'abord de te sanctifier aujourd'hui. Sanctifiez-vous aujourd'hui, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Je crois que Dieu veut pleinement se glorifier dans cette église. Dieu veut pleinement se glorifier dans nos vies à chacun d'entre nous. Dieu nous prend au sérieux, frères et sœurs. Mais je me demande si nous prenons réellement la parole de Dieu au sérieux, si nous prenons Dieu au sérieux. J'ai entendu qu'un seul amen. Mais tous les autres, je sais, vous l'avez dit dans le cœur. Dieu veut bénir ta famille. Dieu veut faire éclater sa gloire, même dans la ville. Je le crois plus que jamais. Et pendant ces 4 jours de jeûne et de prière, ça n'a que confirmé effectivement ce qui est dans mon cœur. On a besoin plus que jamais de sortir et de voir la gloire de Dieu, des miracles et des prodiges se manifester. Dieu est capable, eh bien, de toucher notre mère. Dieu est capable de toucher, eh bien, même le plus bas délinquant, le plus bas tombé, le transformer. On veut que cette ville soit bénie. On veut que Rassuin, entre saints et tout, eh bien, les villes avoisinantes soient également touchées, soient impactées par la présence de Dieu parmi nous. Je vais juste terminer. Ces quelques raisons que nous venons de voir ensemble ne peuvent que nous encourager les uns les autres à nous appliquer à la sanctification. C'est bien de pouvoir s'asseoir et prendre ce temps loin peut-être du bruit et dire « Mais Seigneur, je suis devant toi. » Et au travers de ce premier mois de cette nouvelle année, « Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire ? Qu'est-ce que peut-être j'ai besoin de mettre encore en ordre dans ma vie ?» Et la douceur du Saint-Esprit comme un doux murmure nous révélera peut-être ce qu'on n'avait pas vu jusqu'alors. Nous convaincra de péché parce que il est question de se laisser convaincre par le Saint-Esprit afin qu'avec un cœur honnête et bon, nous puissions rectifier ce qui a rectifié. Frères et sœurs, dégagez-vous. Il y a des chrétiens, quand le Seigneur reviendra, ils voudront décoller. Mais ils découvriront qu'ils étaient coincés, eh bien, par des espèces de boulets qui les retiennent. Des chaînes qu'ils avaient cachées sous leurs vêtements. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. On a besoin d'être libre, d'être léger. Même le baptême est un engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Si ta conscience est tranquille ce matin, sois libre. Mais s'il y a quelque chose sur lequel le diable vient et appuie constamment et te paralyse et t'empêche d'avancer, la solution c'est Jésus. N'essaye pas de te sanctifier par tes propres moyens, je l'avais dit en conclusion la dernière fois, je le redis encore. C'est pas par nos propres forces, c'est pas par nos belles résolutions que nous allons avancer sur le chemin de la sanctification. On a besoin de l'action du Saint-Esprit, le paraclet, afin qu'il puisse nous assister, nous aider et faire de nous véritablement eh bien, un homme ou une femme nouvelle, alléluia, aux yeux de Dieu. Regardez, je termine juste par ce verset, 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 23 et 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et heureusement, frères et sœurs, qu'il y a le verset suivant, c'est-à-dire le verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Voyez la sanctification. Il y a une part qui nous incombe, le désirer, le vouloir. Si tu désires pas te sanctifier, tu vas continuer à tourner en rond. Mais si tu désires, les 99%, je n'exagère pas, le Saint-Esprit va nous aider à pouvoir l'accomplir. Amen. On peut baisser les têtes, on peut fermer les yeux, on va prier le Seigneur. Seigneur, nous l'avons chanté. Tu es un Dieu qui est saint. Et ça a été cité et lu tout à l'heure. Seigneur Esaïe, tombant, Seigneur, devant toi, voyant cette vision de ces séraphins qui n'avaient de cesse de crier « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, qui était, qui est et qui vient. » Nous avons besoin de renouveler notre vision de qui tu es. Tu es le Dieu vivant et vrai, le Créateur du ciel et de la terre. Et nous avons besoin que, Seigneur, tu puisses renouveler en nous la crainte de ton nom. Parce que tu es aussi un feu dévorant. Seigneur, Père, tu en horreur le péché et pour preuve, tu as même accepté que le Fils de Dieu, une partie de toi-même, puisse venir mourir pour résoudre la question du péché. Tellement tu avais en horreur le péché et tu ne pouvais l'admettre en ta présence. Alors comment échapperons-nous ? Seigneur, Père, mon Dieu, si nous refusons, si nous rejetons tes préceptes et tes commandements, Seigneur, si nous sommes là, c'est pour être meilleurs. Tu connais la soif de tes enfants, tu connais le cœur de chacun. De chacune. Seigneur, nous voudrions te remettre ce matin encore les clés de nos vies, les clés de toutes les portes et les recoins de nos existences, afin que, Seigneur mon Dieu, tu puisses nous aider à balayer ce qui a besoin d'être balayé, à ôter de nos vies ce qui a besoin d'être ôté, à sanctifier dans nos corps, dans notre être et dans notre esprit, dans notre âme, tout ce qui a besoin d'être purifié. Nous te donnons, Seigneur Père, mon Dieu, cette autorisation. Nous le désirons réellement. Prends autorité pleinement encore, Seigneur Père, mon Dieu, sur cette église locale. Seigneur, pardon quand, Seigneur Père, nous avons, Seigneur, interféré à ce que tu voulais. Seigneur, prends tout à nouveau, plus que jamais, les commandes, Seigneur Père, mon Dieu, de cette église et fais comme tu veux. De toutes les réunions, les rassemblements que nous aurons, pour parler d'une manière ou d'une autre, de te manifester comme tu le veux. Seigneur Père éternel, nous lions au contraire les œuvres de l'ennemi et toute résistance, Seigneur, venant peut-être même de notre chair, mais pire encore, Seigneur, de l'ennemi, Seigneur, qui voudrait, Seigneur Père, empêcher le seul et l'unique chemin qui peut nous permettre, Seigneur, de voir ta gloire se manifester. Oh, je te le demande au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, libère un esprit de vérité, libère un esprit de sainteté, libère, Seigneur, Père, ici en ces lieux, un esprit de grâce. Seigneur, car nous voudrions, Seigneur, voir notre ville en feu, nous voudrions voir nos familles revenir vers toi, nous voudrions voir ta gloire se manifester au nom de Jésus. Père, pour la gloire de ton nom. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu.